Il est 9h presque 29 minutes, et bien au moment où sont publiées les mémoires de l'ancien conseiller pour la sécurité nationale, John Bolton, l'expert Charles-Philippe David publie un ouvrage qui montre comment le président Donald Trump aux États-Unis priorise les perceptions de sa base électorale plutôt que les intérêts des États-Unis en matière de politique étrangère. J'ai lu ce livre-là presque au complet hier, je l'ai dévoré, c'est vraiment intéressant, parce que ça nous démontre un peu la façon de faire de Donald Trump qui est pas très encourageante. Charles-Philippe David est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'UQAM. Il est fondateur de la chaire Raoul Dandurand aux études stratégiques et diplomatiques. Bonjour Charles-Philippe David.
Bonjour Monsieur Lacroix.
J'ai dit tout à l'heure à l'Université de Montréal, c'est parce que votre livre est publié aux presses de l'Université de Montréal. Ça.
Ouais, c'est pas grave, on est une petite communauté, ça fera pas de jaloux.
Exactement. Bon, en fait, vous vous attardez sur la politique étrangère et l'impact qu'a Donald Trump sur la politique étrangère des États-Unis. À un moment donné, dans votre livre, vous dites que l'étude des années Trump a été un exercice pénible. Pourquoi?
Oui, ben, je vois, vous l'avez bien lu. D'abord, félicitations. C'est très encourageant pour un auteur, ça. Écoutez, oui, c'est très différent. Moi qui ai analysé la politique américaine, et particulièrement la politique étrangère, depuis les années que j'ai un peu commencé à vivre, ma génération, celle de Richard Nixon, oui, on en a connu des vertes et des pas mûres, vous en conviendrez, hein. Mais là, avec Trump, là, on atteint des sommets inégalés, inégalés d'improvisation, d'imprévisibilité dans toutes les décisions. Et je pense que c'est ça qui rend un peu tout le monde fou. En tout cas, pour le moins, la politique très instable, c'est qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre avec lui. Il est réellement capable de dire une chose et son contraire. Puis écoutez, nommez le pays, nommez l'enjeu que vous voulez. Et du virus en passant par la Chine, les tensions aux États-Unis, son attitude face aux alliés, le Canada, l'Allemagne, sur le commerce international, sur les armes, il est capable de faire 360 degrés en l'espace d'une journée. Et je pense que pour ses conseillers, ça doit être très difficile de planifier quoi que ce soit.
Mais on a un exemple très très contemporain de ce que vous dites là. Il menace d'augmenter les prix de l'aluminium aux États-Unis. En ce moment même là, face au Canada. C'est quelqu'un, vous l'avez dit, qui est imprévisible. Mais est-ce que il y a une démarche derrière ça? Est-ce que Donald Trump a une vision de ce qu'est l'Amérique et des relations avec les autres pays?
Oui, finalement, dans un sens, vous avez raison aussi. Je pense que tout se rapporte à lui. D'ailleurs, j'ai une section du livre qui s'appelle « L'État, c'est Trump ».
Ouais.
Clin d'œil à, n'est-ce pas, la royauté qui disait « L'État, c'est moi ». On a un peu l'impression que tout est décidé en fonction d'intérêts personnels de Donald Trump. Puis évidemment, je ne veux pas vous surprendre si je vous dis, dans ses intérêts personnels, ce qui est de plus important que tout le reste, c'est ses calculs électoraux. Je n'invente rien. Vous avez tous entendu le conseiller pour la sécurité nationale qui publie ses mémoires ce matin, John Bolton, des mémoires de 586 pages, dans lesquelles M. Bolton dit, au fond, j'avais le sentiment, chaque fois que je discutais avec lui, j'allais participer à des sommets avec lui, nous étions en discussion avec des leaders étrangers. À chaque fois, j'avais l'impression que la seule chose qui comptait, c'était de gagner.
Ouais.
Gagner pour Donald Trump, ça veut dire gagner auprès de son électorat. Donc oui, l'intérêt personnel et le calcul électoral semblent être le seul compas qui guide l'action de Donald Trump en tout temps.
Ouais, parce que bon, on comprend qu'il s'adresse à une partie des États-Unis là, à un électorat bien précis des États-Unis, avec l'espèce de politique là, l'Amérique d'abord, qui résonne quand même chez une partie de la population là aux États-Unis là.
C'est très clair. Et d'ailleurs, bon an mal an, tous les jours que le bon Dieu amène, écoutez, c'est 40% à peu près des Américains qui globalement restent plus ou moins d'accord avec lui, un petit peu plus que moins. Oui, il a perdu des plumes sérieusement. Mais il ne les perd pas auprès de son électorat. Mais ce qui est le problème, M. Lacroix, dans cette attitude-là, c'est qu'il n'est pas le président des États-Unis. Il est président de son camp ou de son parti. Et ça, c'est une erreur. Une grave, grave erreur, parce que quand on est le président des États-Unis, on a quand même des responsabilités, des défis, des décisions qui dépassent votre seul électorat. Et je pense qu'il risque d'en payer le gros prix dans 4 mois.
Ah oui, vous pensez, vous, que sa présidence est menacée, que son deuxième mandat est menacé?
Oui, il est menacé actuellement. D'ailleurs, il le sait, hein? C'est pour ça qu'il sort, là. Il veut sortir, faire des rallyes, attiser la flamme de ses électeurs et de ses électrices, attiser sa base, évidemment se fâcher, se mettre en colère contre ses opposants. Ses opposants, c'est Joe Biden, mais c'est aussi la Chine. Hein, on va loin dans tout ça. Oui, il est menacé actuellement. Et je pense que ce que j'écris dans le livre sur sa méthode un peu, on va dire, pas mal brouillon, voire incompétente de prise de décision, finit par le rattraper. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il a fait face, pour la première fois dans sa présidence, à une très grave crise auquel font face généralement tous les présidents dans l'histoire. Et c'est à ces moments-là qu'on voit de quel bois chauffe l'occupant du bureau ovale. C'est face à une crise où on voit vraiment si c'est un grand président ou un petit président.
Ouais.
Et je pense que dans le cas de Donald Trump, j'ai pas de misère à convaincre tout le monde. Ça a été un petit président parce qu'il a très mal et continue de très mal gérer cette crise pandémique qui s'aggrave là au moment où on se parle. Ne s'améliore pas du tout. Donc, je pense qu'il a semé, malheureusement pour lui, peut-être, les graines de sa destruction en novembre prochain. Mais novembre, c'est loin, très loin en politique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il serait battu aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est aujourd'hui. On n'est pas le 4 novembre prochain.
C'est ça, exactement. Et la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous croyez que Joe Biden a la stature nécessaire pour le déloger?
Je pense qu'il a la stature pour être président. Il a la stature. Le Joe Biden d'il y a plusieurs années avait ce qu'il fallait pour le déloger, je pense. Le problème, c'est que Joe Biden, lui aussi, a vieilli. Et je ne trouve pas qu'il ne me convainc pas qu'il aura toute l'énergie que cette campagne nécessitera pour déloger un Donald Trump qui, lui, se nourrit de la colère.
Oui.
Lui, on dirait qu'il est de plus en plus en forme au fur et à mesure qu'il se met en colère et que les choses s'aggravent. Alors, imaginez un peu. Donc, je pense que ça va être au rasoir, cette campagne-là. Et puis, le gagnant va se décider peut-être justement par un fil et non pas par une très grande majorité. Mais on verra, ça va être très excitant.
Bon, vous dites également dans votre livre que la politique, en fait, vous qualifiez la politique étrangère de Donald Trump, des États-Unis en ce moment, de pauvre et de simpliste. Est-ce que c'est par ignorance, à votre avis?
Ah oui, complètement. Regardez, juste, je le dis avec un clin d'œil, John Bolton dit qu'il a dû lui expliquer à un moment donné, parce qu'il s'était enflammé avec Vladimir Poutine, en prétendant que la Finlande faisait partie de la Russie.
Ouais.
Écoutez, quand les militaires lui parlent d'une île très, très importante et très stratégique pour les États-Unis dans le Pacifique, qui s'appelle Diego Garcia, à laquelle sont stationnés là, écoutez, des appareils valant des milliards de dollars, les bombardiers stratégiques, etc., Donald Trump demande, oui, mais est-ce qu'il y a des plages et est-ce qu'il fait bon y rester? C'est vous dire à quel point ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump pour décider des choses est quand même assez simpliste.
Oui.
Écoutez, c'est à un moment donné, il rencontre le premier ministre d'Inde, Modi, et puis il lui dit, heureusement, vous êtes loin de la Chine. Et Modi regarde absolument stupéfié Donald Trump. Et le conseiller de l'époque lui fait signe de ne pas insister. Le président des États-Unis ne se rend pas compte que l'Inde a comme voisin la Chine.
Mais oui.
Alors, des exemples comme ça, j'en mentionne, mais il y en a à profusion. Et tout ça s'explique par une seule raison.
Mm-hmm.
Il ne lit pas. C'est quand même étonnant pour un chef exécutif de n'importe quelle compagnie, de n'importe quelle boîte de communication, voire être président des États-Unis, de refuser de lire un seul document pour s'instruire sur un enjeu, parce que ni vous, ni moi, et ni lui ne pouvons tout connaître. Mais alors, c'est quand même étonnant. Donc, sa seule source d'information, c'est le temps qu'il passe dans ses appartements privés à écouter Fox News, particulièrement le matin, avant de descendre travailler. Et quand il a entendu quelque chose sur Fox News, soit une critique, soit une suggestion qu'il doit mettre à exécution, on dirait que c'est pas mal ça qui est le facteur dominant dans sa pensée et dans son action. Alors, ce sont des tas de choses qui sont maintenant racontées par un tas de gens qui démontrent que c'est pas tout à fait un décideur, on va dire, au sommet de sa performance.
J'imagine que vous avez lu le livre de Bob Woodward, Fear, qui est sorti il y a trois ans, je pense. Et il ouvrait, ça illustre bien ce que vous dites, là, il ouvrait dans son bouquin sur un épisode où Donald Trump avait décidé de couper les liens ou de limiter les liens économiques avec la Corée du Sud. Parce qu'il trouvait que les échanges commerciaux étaient négatifs pour les États-Unis, sans se rendre compte que c'était stratégique, parce que les États-Unis pouvaient ensuite envoyer des soldats et des troupes sur le territoire qui est juste à côté de la Corée du Nord. Donc, il y avait un aspect stratégique militaire très important que lui n'avait jamais compris, dans le fond.
Et c'est un exemple parmi d'autres. J'ai eu la chance, d'ailleurs, d'interviewer Bob Woodward ici à Montréal, et il en a révélé bien d'autres à ce moment-là. Les gens délient leur langue et ont parlé à Bob Woodward. Par exemple, quand l'accord économique avec la Corée du Sud, qui est un accord important, un peu similaire à celui que nous avons avec les États-Unis, Trump voulait le déchirer après une centaine de jours à la Maison-Blanche. Et il avait signé le décret exécutif et le décret était sur son pupitre. Et le conseiller économique Gary Cohn, voyant absolument avec effraie les conséquences épouvantables et désastreuses d'une telle décision, avait décidé qu'une fois que Trump partirait et quitterait le bureau ovale, ben qu'il enlèverait, qu'il retirerait cette page, en espérant que le président des États-Unis, le lendemain matin, ne voit pas que ce document soit disparu et donc que la décision ne soit pas prise. Woodward raconte ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Et la Corée du Sud doit la survie de l'accord économique entre les États-Unis et la Corée du Sud, qui s'appelle CORUS, doit cette survie à la décision prise par un conseiller plus éclairé qui a décidé d'enfreindre, au fond, un peu, on va dire, les règles usuelles de bon comportement à la Maison-Blanche pour sauver cet accord et subtiliser le document des yeux du président. Il faut le faire.
Quand on parle d'improvisation, ça ressemble pas mal à ça. Et qu'est-ce que ça va laisser? En fait, quel est l'héritage que va laisser Donald Trump en termes de politique étrangère? Est-ce que ça va être juste un mauvais lendemain de veille si jamais il devait perdre la prochaine élection? Ou est-ce que il va y avoir un énorme chantier là, pour reconstruire les relations internationales après Trump?
Une excellente question et j'y réponds de manière suivante dans le livre. S'il est battu, je pense que les dommages ne seront pas irrémédiables. Autrement dit, peut-être que Biden va pouvoir commencer un petit peu à reconstruire les ponts avec les alliés puis un petit peu sauver les meubles, comme on dit. Je pense que si Trump est réélu, là, les dangers de destruction de l'ordre international tel qu'on le connaît sont beaucoup plus grands. Et en particulier, une relation m'inquiète beaucoup, c'est celle avec la Chine. Admettez qu'en trois ans, nous sommes passés d'une relation, on va dire, compétitive, fortement concurrentielle entre les États-Unis et la Chine, à une relation adversariale ou enfin...
D'affrontement.
D'affrontement, carrément, entre les deux. Eh bien, quatre ans de plus de Donald Trump, ça c'est sûr que ça ne va pas s'améliorer. Et je pense qu'il n'est pas le président capable de faire évoluer le système international ou transiter le système international vers autre chose que le chaos et vraiment l'adversité entre plusieurs États, dont les États-Unis et la Chine. Alors, ça m'inquiète.
Ben, c'est très intéressant ce livre qui s'appelle « L'effet Trump » qui est publié aux presses de l'Université de Montréal. L'impact donc sur la politique étrangère des États-Unis par Charles-Philippe David. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, ça a été un plaisir, M. Lacroix.
Au revoir.